Vous écoutez les séries Choc.
Précédemment, dans les doigts jaunes.
Alors j'appuie en ce moment sur la pompe.
Colonial.
C'est des graines de moutarde canadiennes. Dans cette moutarde française.
Il fait frais, l'ambiance est bonne.
Moi, ça me prend par les sentiments.
C'est essentiellement une journée complète dans le jaune le plus total.
C'est une huile qui, quand elle n'est pas chauffée, est toxique.
La moutarde baseball.
L'héroïne de l'ombre.
On va voir avec les moutardes, souvent c'est les champs, c'est les bords de route, c'est le remblai de chemin de fer, etc. Tandis que peut-être une autre espèce, on va seulement trouver dans une tourbière systématiquement ou dans les forêts de sapins ou quelque chose. Ça fait que c'est, on apprend tout ça par les données. D'ailleurs, une spécimen ici qui n'a pas de données n'a pas de valeur.
Moutarde, mustard, zen. Zen, khardallin, sinap, mustard,
seynape,
garchichne, morschitsa, natar,
hirchichne.
Il était une fois la moutarde. Vous écoutez Les Doigts Jaunes, un podcast exquis entièrement dédié à la moutarde. Ici Paul Charpentier.
Et Félix Deschênes.
Mille excuses en ce qui concerne notre retard. Ça fait quoi, 2 mois depuis le dernier épisode?
Oui, un peu plus que 2 mois, Paul.
Ouh, ça n'a pas été facile.
Non, pas été facile parce qu'on cherchait de la moutarde vivante et qu'on est en hiver. Donc,
t'as appelé quoi, 5-6 serres?
6 serres à Montréal, sur l'île, comme dans les environs. Des petites serres, des grandes serres, puis on n'a jamais finalement trouvé des plants matures ou des serres complètes où on faisait pousser de la moutarde à ce temps-ci de l'année. Mais c'est pas grave, parce qu'on est quand même enthousiaste.
Même fébrile.
Ouais, fébrile, c'est le mot, Paul. Lors du premier épisode, on vous a brossé brièvement le portrait de la moutarde en 2017. On a parlé de son industrie. On voulait surtout souligner qu'une partie importante de la production du condiment de moutarde, ça se joue ici, pas trop loin, dans les prairies canadiennes. On a pu quantifier grossièrement ce que ça signifie du point de vue des exportations. Maintenant que ça c'est fait, on revient à la base. On tente d'expliquer de quoi on parle au fond quand on parle de moutarde. C'est quoi l'essence de la chose?
La nature.
Exact. La moutarde, on la distingue d'abord par ses fleurs qui portent des traits spécifiques à sa famille.
4 pétales, 4 sépales, feuilles alternes.
Ça, c'est M. Sabourin, un passionné de botanique.
Mon nom, c'est André Sabourin. Je suis consultant en botanique depuis 1989.
Donc, la fleur de moutarde, 4 pétales, 4 sépales.
6 étamines, dont 2 petites et 4 grandes.
Étamines, organes sexuels mâles contenus dans les fleurs.
Et puis, les fruits, ce sont soit des silicules qui sont plutôt rondes ou enfin de toutes sortes de formes, où les siliques sont beaucoup plus longues que larges.
Donc, 4 pétales, 4 sépales, qui sont les genres de lobes qui soutiennent les pétales. Et il y a aussi le jaune caractéristique qui permet d'identifier la plante?
Oui.
Fleur jaune, toujours. Quand vous voyez un champ de jaune là, dans les régions agricoles, c'est souvent celle-là. Il y en a d'autres espèces aussi, comme la barbarie vulgaire, là, qui peut envahir aussi les champs avec des fleurs jaunes.
Mais ça demeure principalement la moutarde qu'on retrouve en abondance et qui jaunit les champs.
D'ailleurs, c'est ça la couleur très dominante qui avait marqué notre ami Cédric.
Oui, exact.
Et de passer les provinces du centre, c'est essentiellement une journée complète dans le jaune le plus total à travers les champs de moutarde. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, surtout quand on s'attend à la journée la plus plate de sa vie en traversant les provinces centrales du Canada.
Une autre particularité, c'est le nombre de graines produites.
C'est différent des autres plantes?
Oui, oui, quand même. Ce qui est important, c'est de savoir que la moutarde a des siliques, c'est des espèces de fruits secs, longilignes, plus sur le long, qui, eux, contiennent les graines. Puis, ils en contiennent vraiment beaucoup. C'est pour ça que dans les milieux perturbés par l'humain, où le sol est remué, où il y a des travaux, où il y a des activités humaines, la moutarde prolifère.
C'est des plantes de milieu ouvert. Fait que quand on ouvre un milieu puis qu'on travaille le milieu, les autres, ils en profitent puis ils sortent, étant donné qu'ils produisent beaucoup de graines. C'est des plantes assez coriaces.
On les considère même parfois comme des mauvaises herbes,
oui,
pratiquement.
Oui, mais j'aime pas le terme « mauvaise herbe », parce que c'est des plantes qui sont même comestibles. Moi, je préfère le terme « envahissante » ou « indésirable ». Mais « mauvaise herbe », disons que c'est de l'anthropomorphisme, tu sais. Je ne suis pas trop d'accord avec ça.
Bon, la couleur jaune, le nombre de pétales, de sépales, d'étamines, c'est des signes qui nous permettent de distinguer grossièrement la plante de moutarde. Mais ce serait aussi assez important de la situer, la moutarde, dans sa famille botanique.
Mais la famille des brassicacées, anciennement nommée crucifère, brassicacées, c'est plus le nom scientifique.
La majorité des crucifères qu'on retrouve à Montréal, c'est des crucifères introduites.
Ça, c'est Denis Paquette.
Denis Paquette.
L'acolyte d'André Sabourin.
Ouais, moi, je suis chimiste de formation, mais mon loisir a toujours été la botanique. Puis j'ai enseigné pendant 35 ans, puis là, je suis à la retraite. Puis là, je fais ça à temps plein actuellement, la botanique. Il y a une chose qui est caractéristique, qu'on n'a pas dit des crucifères, c'est qu'ils font à la fois des fleurs et des fruits en même temps. Donc, la plante pousse, elle commence par faire une fleur, la fleur se transforme en fruit, la tige s'allonge, le fruit devient de plus en plus mature, la fleur refleurit encore au bout de la tige, refait un nouveau fruit, et ce qui fait que la plante va être en fleur durant toute la saison, la plupart du temps.
Oui, parce que même si elle est très présente, la moutarde, elle est annuelle, et c'est probablement les graines abondantes qui donnent l'impression que la plante meurt jamais.
Ah, c'est drôle, j'ai toujours pensé que c'était des vivaces.
Oui, moi aussi, parce qu'on la retrouve pratiquement toute la saison.
Toute la saison d'été. On en trouve même jusqu'en novembre. Donc, la plante a les fruits en bas, des siliques, puis là en haut, c'est les fleurs.
Une autre chose quand même marquante chez les crucifères, c'est leur grande proportion d'espèces comestibles.
À part la moutarde, y a d'autres espèces qu'on peut manger?
Il y en a pas mal.
La famille des crucifères compte de nombreux légumes, tels que le rutabaga, le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou-fleur, le radis et le navet.
Si on est allé voir M. Sabourin puis M. Paquette, ben c'est pas pour rien. Ils ont consacré une grande partie de leur recherche à cette famille de plantes-là et ils ont aussi publié des ouvrages sur le sujet.
Oui, je me suis même présenté au lancement de leur livre.
Ben, c'est les Brassicacées du Sud du Québec.
Les Brassicacées du Sud du Québec en octobre.
Quel genre de personnes il y avait là-bas, Paul?
Ouf, des habitués, des passionnés, beaucoup de gens vêtus de kaki.
Ouais, c'est un sujet un peu pointu, hein, on le comprend. C'est quand même une démarche de passionné pour M. Paquette puis M. Sabourin qui, eux, étudient la question depuis des années.
En 1977, il y a un botaniste qui s'appelle Michel Bertrand qui a eu l'idée de travailler, d'améliorer les connaissances sur la famille des brassicacées, qu'on appelait les crucifères à l'époque. Mais la base du projet, c'était parce que dans la flore laurentienne de Marie-Victorin, là, qui est la Bible de la flore du Québec, la famille n'est pas très bien étudiée. Là. Il y a la moitié des espèces qui ne sont pas décrites, qui sont seulement citées. Fait qu'il y avait une mise à jour à faire. Moi, j'ai embarqué 6 mois plus tard, mais j'ai eu comme la piqûre. Fait que j'ai continué ça. À un moment donné, le groupe a lâché là, au début des années 80. Ils ont arrêté. Puis moi, j'ai repris le projet en 1985.
Et moi, je suis le deuxième auteur. J'ai rencontré André il y a une trentaine d'années, puis on a fait de la botanique ensemble depuis ce temps-là. Puis son projet de crucifère m'intéressait.
Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous vous êtes rencontrés? C'est dans quelles circonstances?
En 83, au jardin botanique, dans un stationnement, on sortait d'une conférence, je ne sais plus trop quoi.
Une meilleure mémoire que moi, parce que je ne me souviens pas. Mais je sais qu'on échangeait beaucoup sur les plantes, et puis André me disait qu'il aimait beaucoup les crucifères. J'ai dit, tiens, c'est intéressant, je vais essayer de regarder ça.
Puis on a travaillé ça pendant quelques années, puis en 91, on a publié un premier travail sur la famille. Mais tout ça a été amélioré là, jusqu'à notre publication là, récente au mois d'octobre 2017.
Dans leur livre, ils répertorient 87 espèces sauvages de brassicacées dans le sud du Québec.
Qu'est-ce qu'on entend par sud du Québec?
Bien, dans le sud du Québec, au sud du 50e parallèle.
Ouais, leur terrain de recherche est assez pointu. Et dans ces 87 espèces de brassicacées, il y a 6 espèces de moutarde qu'on retrouve à l'état sauvage au Québec.
Premièrement, il y a 2 genres. Le genre brassica, il y a 4 espèces, puis le genre sinapis, 2 espèces. C'est deux genres très proches. Là. Dans ces espèces-là, il y en a 2 qui sont vraiment communes. Vous avez la moutarde des champs, là, sinapis arvensis.
Sinapis arvensis.
Puis Brassica rapa, la moutarde des oiseaux.
Brassica rapa.
Ces deux-là sont les plus communes. Les quatre autres sont plutôt soit occasionnelles ou même rares. À part Sinapis arvensis, vous avez la moutarde blanche, Sinapis alba.
Sinapis alba.
Dans les trois autres Brassica, vous avez Brassica juncea.
Brassica juncea.
Qui est la moutarde d'Inde, toutes sortes de noms. Elle, la moutarde brune, la moutarde de Chine, enfin. Vous avez la moutarde noire, Brassica nigra.
Brassica nigra.
Qui, elle, est plutôt occasionnelle, elle n'est pas rare. Tandis que Juncea est pas mal rare. Puis l'autre, Brassica napus.
Brassica napus.
Qui est le rutabaga, là, qui ressemble à ça, à l'origine. Là.
On retient qu'à l'état sauvage, deux des six espèces, donc la moutarde des champs et la moutarde des oiseaux, ben, sont assez abondantes.
Notre travail était de dire, justement, prouver qu'elles étaient abondantes, donc d'aller dans les herbiers, regarder le nombre de récoltes qui ont été faites depuis les derniers 100 ans.
Selon le dictionnaire Larousse, un herbier est une collection de plantes ou de parties de plantes desséchées sous presse, étiquetées et nommées avec rigueur, qui servent pour les études de systématique.
Quand Denis Paquette et André Sabourin nous ont parlé de leur visite dans les herbiers pour faire leur livre, on a été intrigués.
Surtout qu'il y en a un particulièrement impressionnant à Montréal, c'est l'herbier Marie-Victorin.
Ouais, du jardin botanique, exact. On y est allé pour voir s'il y avait les six espèces de moutarde répertoriées au Québec. Bien sûr, elles étaient là. Il y en avait de toutes les sortes, de plein d'époques aussi. C'était quelque chose.
On n'a pas été déçus, il y avait des spécimens anciens qui font vraiment partie du patrimoine végétal.
On est au coin de Pinneuf et Sherbrooke, devant ce qui semble être une très longue allée, un peu austère, mais en même temps, ça fait assez noble.
Très, très noble, et puis il y a un édifice assez imposant devant nous.
Je pense qu'on pourrait dire que c'est la porte d'entrée, Paul, vers... Le monde de la botanique qui s'ouvre à nous.
Oui, j'ai vraiment hâte et puis, en fait, je suis un peu craintif même. Ça m'arrive pas souvent. On a reçu des instructions assez spéciales pour arriver à notre destination. On est prêt?
On est prêt.
Des beaux souvenirs ici. Dans ce coin-ci, j'étais au lancement du livre Les Brassicacées du Québec. Et je me souviens, effectivement, c'était un labyrinthe aussi. Ça m'a pris très longtemps à trouver la salle en question où se trouvait le lancement. Je suis arrivé à bout de souffle, la buée dans les lunettes, la mèche rebelle. C'était quelque chose. Même le gardien de sécurité ne savait pas où ça se trouvait la dernière fois.
J'ai comme l'impression que les gardiens de sécurité sont pas les plus férus en brassicacées du sud du Québec, Paul.
Semblerait que non, j'étais déçu.
Bonjour, je suis venu voir M. Jeffrey Hall. Je suis venu voir M. Jeffrey Hall de l'herbier.
Oui,
on a rendez-vous.
Monsieur...
Félix Deschênes.
Félix Deschênes et Paul Charpentier.
C'est bien ça.
Parfait. Est-ce que vous savez où aller rejoindre M. Jeffrey?
Monsieur Hall nous a donné toutes les indications, donc ça devrait aller.
Ça va aller.
Parfait. Génial. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Je suis déjà très impressionné, Paul. Paul, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, si on lève les yeux?
Si on lève les yeux, on voit beaucoup, beaucoup de plantes. Ici, c'est une acmée, je crois. Et c'est tout à fait magnifique.
J'ai l'impression que tout pourrait nous enlever la vie ici, Paul.
Moi aussi. Encore une fois, mais je crois que mes craintes sont justifiées. Il faut garder l'œil ouvert.
Wow, il faut tasser la tête, hein, parce que sinon... Entrer en collision avec de magnifiques espèces exotiques.
Ouais, on parle ici d'une forêt étagée.
Et là, on entre dans une deuxième serre.
Du riz, du poivre, on est rendu un peu dans les plantes alimentaires.
Ouh! Oh, cap sur la route des épices. Clairement, il devrait y avoir de la moutarde là-dedans, Paul.
Ben, tu sais, il fut un temps où les épices se marchandaient à prix d'or, Félix. Superbe fougère ici, dont la fougère nid d'oiseau.
Est-ce qu'on doit rappeler à nos auditeurs qu'il y a une espèce de moutarde sauvage répertoriée au Québec qui s'appelle la moutarde des oiseaux?
C'est une bonne idée de le rappeler.
Brassica rapa, la moutarde des oiseaux.
Ça C'est marqué ici accès interdit, Paul, mais je suis persuadé que c'est pas tout le monde qui a un rendez-vous avec le conservateur de l'herbier, Marie-Victorin.
Ouais, effectivement, puis c'est assez imposant. Il y a plusieurs gardes de sécurité ici. Je sais pas s'il y a des trucs de biométrie aussi pour passer, on verra. Oui, bonjour, est-ce que je peux parler à M. Jeffrey Hall, s'il vous plaît? Oui, bonjour, c'est Paul Charpentier, je suis ici en compagnie de Félix Deschênes. C'est ça, on est en bas dans le centre, juste au téléphone. Génial, bien, merci beaucoup. Quelqu'un veut venir ouvrir la porte?
Je m'appelle Jeffrey Hall, je suis le conservateur assistant de l'herbier Marie-Victorin. On est dans l'herbier Marie-Victorin, qui est essentiellement une grande salle de plantes vasculaires rangées dans 600 armoires.
Il y a un changement majeur de température puis d'humidité qui nous force à avoir une petite laine quand on vient ici.
Oui, les gens, les bénévoles qui passent plus qu'une demi-heure ici apportent plus de vêtements. C'est sûr, j'ai déjà vu avec des trucs et des mitaines aussi.
Ah oui.
Même s'il fait 16 à 18, c'est pas si froid. Mais si on bouge pas, on regarde dans un microscope, on manipule une pile de spécimens sans bouger, on a froid après une demi-heure.
Monsieur Hall, on est ici parce qu'on est investi d'une mission.
Oui, c'est une très grande mission et qui concerne la moutarde, qui est dans la famille des brassicacées. Disons que moi, je venais faire un tour ici à l'herbier, et puis je voulais voir des spécimens de moutarde. Comment est-ce que je me prendrais pour partir à la découverte?
Ici, dans l'herbier, on est classé physiquement selon un système très moderne qui s'appelle APG3. C'est en anglais Angiosperm Phylogeny Group 3.
Angiosperm Phylogeny 3.
On va consulter une liste un peu artificielle où on a alloué à chaque famille un numéro de 1 à 466. Et puis, on va chercher le numéro de famille de brassicacées. Alors, disons qu'on a dressé une petite liste d'espèces qu'on va chercher. On cherche dans notre index, on sort un numéro d'armoire. On va juste aller chercher le bon rangée d'armoire. On va ouvrir cette rangée-là, on va ouvrir la porte de notre armoire en question, puis on va fouiller.
On se trouve devant l'index des genres en ce moment. On a noté quelques espèces latines. Paul, si tu veux sortir le livre, peut-être. On cherche les Brassica nigra, on cherche aussi les Sinapis argensis.
Mais d'abord, on trouve tout de suite dans l'index Brassica et placé dans une seule armoire, 352. Ça fait qu'on va aller chercher sur les tablettes 11 à 21 l'espèce qui nous concerne. Est-ce qu'on veut aller
allons-y.
Voir?
Absolument, allons-y.
Oui, j'ai hâte.
Alors, on voit entre deux rangées fermées qu'on passe de 338 à 355. Évidemment, c'est la rangée qui nous intéresse, 352. Puis c'est tellement facile à bouger qu'on peut bouger 3 ou 4 ou 5 rangées en même temps. Wow. Avec une simple tour de manivelle. Très facile à trouver le 352. Toutes les plantes sont conservées dans les armoires hermétiques. Alors si...
On se penche, c'est tout en bas.
Le Sinapis est ici en bas dans ce coin-ci. Si vous cherchez des moutardes du Québec, mais on va passer par Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, et on tombe dans le Québec. Là, on voit trois chemises du Québec. Après, on continue, il y a une chemise pour chacune des autres provinces, puis après une chemise pour les États-Unis. Puis là, on commence une autre espèce de Brassica. Alors, ce qu'on voit tout de suite, qu'on va avoir... j'ai sorti plusieurs provinces, mais j'ai le Québec ici. Je ne sais pas c'est quoi... votre intérêt, parce qu'on va avoir des spécimens, c'est uniquement en fruits. On n'a presque pas de feuilles. C'était un spécimen récolté le 17 juillet. Déjà, on voit par ça que les spécimens sont déjà en fruits, rendus de mi-été. Ici, de même date, on a des fleurs avec quelques fruits. On voit ici une révision de nom. Il dit une grosse erreur. Il change de genre et d'espèce sur ce spécimen-là.
écrit ça. Est-ce que ça veut dire donc qu'il y a eu... Ça, c'est un spécimen de 1969 et qu'en 1970, il y a eu la révision?
Des fois, une planche peut avoir 4-5 opinions l'une après l'autre. Mmh.
Est-ce que vous diriez, M. Hall, que ça arrive où il y a pratiquement un débat en frais d'opinion sur un carton?
Débat, mais nous, on considère que la dernière personne a raison. mais on peut voir revenir à la première identification une série de d'étiquettes qui est assez amusant. C'est pas typiquement que les gens sont pas d'accord sur est-ce que c'est la version à fleur blanche ou version à fleur bleue, mais c'est parce que quelqu'un dit mais le vrai nom en latin devrait être telle affaire et pas telle autre. Et ici, on voit un cas spécial, et je ne sais pas pourquoi c'est dans une boîte, à part le fait que c'est un spécimen ou une série de spécimens qui, pour une raison ou une autre, et on voit que c'est toutes des variétés. Oh, oui, c'est des navets, ça. Alors, on voit un essai de mettre une navet sur une planche d'herbier. Mais c'est pour ça que c'est dans une boîte, parce qu'il y a un qui est très épais, puis les autres vont avec. Mais c'est drôle de voir quelqu'un qui essaie de presser un navet et faire un spécimen d'herbier pour la recherche.
Est-ce qu'on peut parler d'exploit?
C'est quelque chose. Mais on peut imaginer la difficulté lors de la récolte, là, d'essayer de trancher une partie pour le rendre un peu moins épais, et après la difficulté d'écraser puis de presser sans que tout moisisse. Mais j'ai déjà participé à la récolte de choses comme des palmiers et tout, où c'est une... d'une difficulté extrême de faire un beau spécimen. Et des fois, ça va déborder sur 6 ou 8 ou 10 planches pour avoir tout. Évidemment, le matériel végétal est important, mais si on n'a pas les données, le simple nom d'une plante sert à rien. C'est bon pour un herbier éducatif, mais ce n'est pas bon pour ici, qui est un herbier de recherche. Ça sert à la recherche. Même notre but, ce n'est pas d'exposer jamais les spécimens ici. On essaie même de les cacher dans les armoires.
OK, donc l'expression « la moutarde me monte au nez ».
La moutarde qui monte au nez.
La moutarde nous monte au nez.
La moutarde qui monte au nez.
La formule populaire veut que la moutarde, ça nous monte au nez. On a eu la chance de nous entretenir avec une spécialiste de la question pour comprendre comment ça se produit, ça.
Je m'appelle Christina Blais, je suis chargée de cours au département de nutrition de l'Université de Montréal et ma spécialité, c'est la chimie alimentaire. Je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi certaines moutardes sont piquantes et d'autres pas.
Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans le piquant de la moutarde. Ça commence par la substance elle-même, dans la graine de moutarde.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains légumes et certaines graines, surtout celles qui proviennent de la famille des crucifères, donc tout ce qui est chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli, etc., il y a une molécule qui s'appelle la sinigrine.
Sinigrine.
Et cette sinigrine-là, dans le cas de la moutarde, elle est en assez haute concentration dans la graine de moutarde. Il y en a dans les feuilles, mais il y en a aussi dans la graine. Ailleurs, dans la graine, dans une autre partie de la cellule, il y a une enzyme qu'on appelle la myrosinase.
Myrosinase.
Alors, la graine de moutarde, elle n'est pas piquante en soi. C'est seulement lorsqu'on l'écrase et qu'on brise sa structure cellulaire qu'on permet à la sinigrine d'entrer en contact avec la myrosinase. Et là, il y a une réaction chimique qui va transformer la sinigrine en une nouvelle molécule qui s'appelle l'allyle isothiocyanate.
L'isothiocyanate d'allyle.
Et c'est cette molécule-là qui est très volatile et très piquante.
Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas une composante qui est déjà piquante, c'est le résultat de l'union de deux composantes.
Ouais, la sinigrine et la myrosinase. Puis ça donne l'isothiocyanate d'allyle. Puis dépendamment du type de graine, ce produit-là, ce résultat-là de la réaction, ben c'est plus ou moins présent.
Il y a trois variétés de graines, grosso modo. Il y a des graines de moutarde blanches, les brunes et les noires. Alors, les blanches sont pas fortes, les brunes sont moyennement fortes et les noires sont très fortes.
Et cet isothiocyanate, c'est spécifique à la moutarde?
Ben, c'est spécifique à la famille de la moutarde, les brassicacées ou les crucifères.
C'est parfaitement spécifique à peu près tous les légumes qui viennent de la grande famille des brassicas, donc des crucifères. Je vais vous donner des exemples. Il y a le chou-fleur, le brocoli, les choux de Bruxelles, les feuilles de moutarde. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de manger une salade de choux puis que vous la trouviez particulièrement forte, un peu piquante en bouche. Mais c'est exactement la même réaction. C'est la fameuse sinigrine qui réagit avec l'enzyme myrosinase lorsqu'on râpe la salade de choux et ça va vous donner quelque chose de très piquant.
Ah, j'avais déjà remarqué ça.
Oui, moi aussi, mais j'avais jamais senti le piquant me monter au nez comme avec la moutarde. Donc, il y a l'aliment qui en soi contient cette composante-là, l'isothiocyanate d'allyle, mais le piquant est aussi exacerbé ou neutralisé en fonction des conditions dans lesquelles la graine est broyée.
Donc, il faut que la graine soit écrasée et mélangée avec de l'eau, idéalement, pour que cette réaction-là s'opère, parce que les molécules ne sont pas mobiles.
D'ailleurs, Philippe Devienne nous avait parlé de ça.
Quand on croque dans une graine de moutarde, la moutarde se mélange avec la salive, qui est de l'eau, en fait. Et à ce moment-là, les principes piquants de la moutarde sont activés par l'eau. C'est pour ça que nos grand-mères qui faisaient de la moutarde en poudre, ils mettaient de l'eau, ils laissaient reposer un 15 minutes pour que la moutarde, on disait, fallait qu'elle mûrisse ou qu'elle s'efface. Et ça permet à ce moment-là de libérer tout le piquant de la moutarde quand on met l'eau dedans.
Alors lorsqu'on écrase les graines et qu'on les mélange avec de l'eau, l'eau va permettre aux deux composés de nager l'une vers l'autre, là, pour, si vous me permettez l'analogie, et de réagir ensemble.
On parle d'eau, mais je sais qu'il y a beaucoup de moutardes qui sont à base de vinaigre.
Ouais.
Est-ce que ça a le même effet sur le piquant?
Ben pas vraiment, justement, Paul. On parlait de la graine qui pouvait contenir plus ou moins d'isothiocyanate si elle est plus foncée. Mais un autre facteur qui est l'acidité de la solution. Donc, plus le liquide dans lequel la graine est broyée est acide, plus la réaction, elle est ralentie et moins le piquant se libère.
Et évidemment, le vinaigre, c'est très acide.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que la moutarde baseball est moins forte?
Entre autres, oui, elle est très vinaigrée, donc elle est moins forte que des moutardes à l'ancienne, par exemple, où on s'en tient plus à l'eau et au sel qu'au vinaigre.
En milieu qui est très acide, la réaction chimique, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup ralentie. Donc, si je prends des moutardes qui ne sont pas fortes, les blanches, que je les écrase en présence l'eau froide ralentit l'activité de l'enzyme, et que j'ajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de vinaigre, le vinaigre ralentit aussi la réaction, je vais avoir une moutarde qui est très douce. Inversement, si je prends les graines noires, que je les écrase avec de l'eau chaude, sans acidité, je vais développer beaucoup, beaucoup, beaucoup de la molécule qui a le goût piquant. Donc, en jouant avec les conditions de fabrication de la moutarde, on peut aller de très douce à très forte.
Bon, la teinte de la graine, la température et l'acidité de la solution, je pense que c'est assez clair maintenant. Il faudrait peut-être aussi dire, comme le souligne un chimiste alimentaire qui s'appelle Raphaël Aumont, il est maître de conférences à l'Université Paris-Sud, que l'isothiocyanate, ça s'oxyde.
L'isothiocyanate d'allyle est sensible à l'oxydation. Plus le pot de moutarde diminue, plus le piquant de la moutarde est atténué.
Ah, c'est pour ça que la moutarde anglaise est moins piquante après quelques temps au frigo.
Ah, peut-être.
Donc ça, ce sont des facteurs qui font que la substance est plus ou moins piquante, mais du côté de notre bouche, il y a aussi une réaction qui fait qu'on ressent le piquant plus ou moins fort.
Oui, exact, parce que la graine broyée, elle est très irritante. Quand ils préparent la recette de moutarde, les moutardiers doivent se protéger sérieusement. Il y en a un qui parlait de ça, d'ailleurs, dans un reportage de l'épicerie que j'ai vu l'autre fois.
Ah oui?
Faut porter le masque parce que sinon, j'ai déjà essayé, puis j'ai été 5 minutes, puis après ça, j'ai eu 15 minutes à broyer, fait que... On met le masque, on n'a pas le choix.
OK, donc l'expression « la moutarde me monte au nez »,
oui,
là,
oui,
on peut comprendre.
C'est très, très fort, très, très fort.
Cette molécule-là, l'allyle isothiocyanate, elle est très irritante, elle est très volatile. Alors, quand on dit que la moutarde nous monte au nez, c'est que lorsqu'on avale, il y a un vide qui est créé, et puis là, il y a de l'air qui remonte dans la cavité nasale, et cette molécule-là va aller stimuler des récepteurs de la douleur, et c'est ça qui fait que c'est douloureux là, de respirer la moutarde ou d'avoir de la moutarde dans la bouche.
Le nerf trijumeau est sollicité, et les cellules sensorielles de la partie haute de la tête répondent. Le nez brûle et les yeux coulent immédiatement.
Est-ce que c'est la même réaction qui se produit avec d'autres types de piquants, comme les piments, par exemple?
C'est une bonne question. Moi aussi, je me la posais. Je l'ai posée à Christine Ablet.
Dans le cas des piments, c'est pas du tout la même chose au niveau de la synthèse de la capsaïcine. La capsaïcine, elle est présente dans tout ce qui est piment. La concentration, comme vous le savez, peut varier. Donc, les piments jalapeno, c'est pas très fort, comparativement, par exemple, aux piments habanero. Dans le cas de la capsaïcine, elle est déjà présente dans l'aliment. Et il faut tout simplement qu'on la mette dans notre bouche pour apercevoir le piquant.
On voit bien que c'est différent puisque la capsaïcine des piments est en soi piquante, tandis que dans la moutarde, c'est deux composantes non piquantes qui réagissent ensemble pour créer le piquant.
Et oui, et déjà un autre épisode qui tire à sa fin. On a appris des choses très intéressantes.
Oui, on a vécu des choses assez intéressantes dans les dernières semaines, Paul.
Puis on a rencontré des gens passionnés et passionnants aussi.
C'est ce qui t'a marqué, toi, la richesse des gens qu'on a rencontrés.
Tout à fait. Puis c'est des gens qui sont passionnés et puis ils sont très érudits dans des disciplines hyper nichées. C'est quelque chose, je pense, qui va me marquer. Tout comme cette très, très belle visite au jardin botanique. C'était, honnêtement, c'est un superbe endroit. Et puis même marcher, il a fallu quoi, 4 serres?
Il fallait traverser toutes ces serres-là. Puis ça, ça a été comme une espèce de petit pèlerinage.
C'était quelque chose, c'était de l'aventure. J'avais vraiment l'impression qu'on était genre Tintin reporter.
À chaque fois que je mange de la moutarde, puis qu'il va avoir le piquant qui va me monter au nez, je vais comme être condamné à penser à la réaction chimique, puis à tout le temps analyser. Je pense que je vais faire des cauchemars avec l'isothiocyanate d'allyle dans la tête, Paul.
Ça fait des rêves très particuliers. Moi aussi, je pense souvent, quand je vois une moutarde piquante, je me dis, la moutarde en soi n'est pas piquante. Mais c'est la natation, comme on avait appris, qui fait en sorte qu'elle l'est.
Je pense qu'il faut voir la myrosinase puis la sinigrine comme avec des flotteurs et elles nagent l'une vers l'autre.
Tout bonnement.
Dans notre bouche.
Oui, il y a quelque chose de presque une piscine olympique là, de moutarde que j'ai en tête.
Un peu mieux ciblé de quoi on parle quand on parle de moutarde. Bien sûr, on pourrait nous faire remarquer qu'on n'a pas parlé là, de tous les aspects scientifiques liés à la moutarde. C'est sûr, ça aurait été un petit peu long. Mais on voulait plus se concentrer sur la moutarde elle-même que sur ses applications. On va d'ailleurs dédier un de nos épisodes ultérieurs aux applications technologiques de la moutarde, qui, par exemple, est utilisée comme un pesticide naturel ou comme un carburant aussi.
Oui, on a vu ça aux infos dernièrement. Mais ça va venir un peu plus tard parce que dans le prochain épisode, on vous présente le début d'une odyssée gastronomique. D'ici là, abonnez-vous à notre balado là où vous écoutez habituellement vos podcasts. Google Play, iTunes ou directement sur la page de Choc où vous pouvez récupérer le fil RSS.
Exact. On l'a dit lors du dernier épisode, on n'a malheureusement pas été aussi assidus que souhaité, mais on vous promet quand même du contenu additionnel sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook où vous allez trouver des segments d'entrevues inédits. Le prochain segment, on fait une petite pub comme ça, ça va porter sur le canola.
Le canola?
Ouais, savais-tu, Paul, que le canola, ben, c'est une invention canadienne? C'est issu de deux espèces de cultivars de moutarde qui ont été croisés?
Non.
Ah oui, canola pour Canadian Oil.
Quand même, c'est un peu le même phénomène que Nylon, le New York-London.
Non, exact, je savais même pas ça.
Bon, voilà, on apprend plein de choses.
Les doigts jaunes, source de savoir intarissable. Fait que plus de détails pour toi très bientôt sur notre page Facebook, Paul, et pour nos auditeurs également, comme quoi tous les chemins mènent à la moutarde.
Oui, et parlant de moutarde, t'avais pas dit que tu faisais le challenge d'huile de moutarde dans les cheveux?
Oui, je l'avais dit, Paul. Tu m'as d'ailleurs trouvé rapidement un contenant d'huile de moutarde.
Oui, en fait, je suis reconnu pour ma célérité.
T'as trouvé ça où?
En fait, c'était à Parc Extension, dans un dépanneur.
Comme Philippe Devienne l'avait indiqué, c'était bien marqué sur la bouteille que c'était pour usage externe seulement.
Oui, et puis par rapport au dépanneur aussi, c'est intéressant de noter que c'est un dépanneur 24 heures. Donc, on peut s'acheter de l'huile de moutarde en tout temps à Montréal.
Ouais, c'est possible pour ceux qui ont un rêve.
Un rêve et une vision.
Je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu limité, Paul, que je fasse, moi, le défi, le challenge d'huile de la moutarde, parce que j'ai comme un pouce et demi de cheveux au plus
peut-être,
long.
Peut-être, ouais, un pouce et trois quarts, deux pouces maximum, là, mais je ne suis pas expert. Mais ça vaudrait la peine de faire le test quand même.
Mais ne serait-ce que pour le confort ou pour la texture.
Ouais, voire le volume.
Ben, je vais le faire, je vais documenter ça plus assidûment, je m'excuse encore.
Alors très bien, on a hâte, on en est déjà à se dire à la prochaine pour un rendez-vous moutardé. N'oubliez pas que le bonheur, c'est posséder toutes ces choses que tout l'or du monde ne pourra jamais acheter. L'amour, l'amitié, le rire et la meilleure moutarde.